Matière à penser, Dominique Rousset.
Et ce soir, nous partons de l'histoire. L'histoire serait la suivante. Au temps de Néron, 5e empereur romain mort en 68 après Jésus-Christ, le dimanche, premier et pas dernier jour de la semaine, était le Dies Solis, la fête du soleil pour honorer Mitra, le dieu de la lumière, assimilé au dieu grec du soleil, Hélios. Jour du soleil, on le retrouve bien sûr en anglais ou en allemand avec Sunday ou Sonntag, mais c'est un autre empereur, Constantin, celui-là même qui mit fin en persécution contre les chrétiens par un édit de tolérance, leur accordant la liberté de fêter la résurrection du Christ le même jour, soit pour eux le troisième jour après sa mort, c'est-à-dire un vendredi. Constantin donc instaura par un décret, c'est très précis, du 7 mars 321, je cite, « Il ordonne un jour, au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. » Un jour commun donc de repos pour les deux grandes religions de l'Empire, la religion païenne et la religion chrétienne. 2000 ans plus tard, le repos dominical est toujours la règle, il est même devenu une quasi-norme mondiale. Mais jusqu'à quand est-il possible qu'il ne résiste pas aux bouleversements récents dans les temps de vie des sociétés contemporaines et que celle-ci soit prête à accepter une telle rupture ? Inquiétude en tout cas est mise en garde chez notre invité. Oh les beaux dimanches, c'est notre titre. Bonsoir Jean-Yves Boulin.
Bonsoir.
Sociologue, chercheur associé à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, c'est l'Université Paris-Dauphine. Avec Laurent Lénard, vous avez publié justement « Les batailles du dimanche », livre qui défend le sacro-saint dimanche. Laurent Lénard, sociologue, lui, à Sciences Po, à l'Observatoire sociologique du changement. Et l'originalité de votre approche, on va tout de suite la préciser dans cet entretien, c'est que pour la première fois, vous avez décidé d'étudier l'impact de cette banalisation croissante du travail dominical, on va y venir, sur les conditions de vie des personnes, celles-mêmes qui travaillent ce dimanche, ce jour même, et de même que sur leur usage du temps, c'est bizarrement une première. On va en reparler. Auparavant, pourquoi un intérêt si constant chez vous, Jean-Yves Boulin, dans toute votre carrière, pour les temps sociaux, pour les politiques temporelles ? Pourquoi ce choix ?
Alors, peut-être ça va me faire remonter à l'époque où j'étais jeune chercheur, dans le centre de recherche de Jacques Delors, qui avait écrit, fait publier à travers le club Échange et Projets la révolution du temps choisi. Et moi, j'étais jeune chercheur à la fin des années, dans les années 70. Et une des premières études qu'il m'a confiée, il m'a envoyé vers la Fondation de Dublin, la Fondation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et j'avais fait.
Qui existait déjà, donc, quand même, dans ces années-là.
Oui, depuis. C'est important de le signaler. Elle avait été créée en 1975. Et son siège est à Dublin. À l'époque, maintenant c'est très connu, mais à l'époque c'était complètement inconnu. C'est une petite institution de la Fondation de la Commission européenne, bien sûr. Et première étude que cette fondation m'avait confiée, c'était une analyse de la littérature des rapports entre temps de travail et temps hors travail, temps libre. Voilà. Et depuis, alors que mes travaux de thèse étaient plutôt sur l'emploi. Plus directement, je continue à m'intéresser à l'emploi, aux relations industrielles, à relations sociales, etc. Donc, mais depuis, effectivement, j'ai pas abandonné la question du temps et des temps sociaux, pas seulement du temps de travail, mais aussi des temps sociaux.
Et ce qui arrive au dimanche vous interpelle beaucoup. Cette histoire de Constantin, alors j'étais très surprise de voir que c'était le 7 mars 321, la date me paraît vraiment d'une précision étonnante. Jour de repos,
oui,
donc.
Oui,
hein, ça, peut-être sujet à caution. Jour de repos, jour du Seigneur. Il est vrai que le dimanche a quand même été très longtemps dédié à l'assistance aux offices religieux. C'est intéressant de remonter cette histoire du dimanche.
Oui, c'est surtout intéressant parce que vous l'avez précisé et vous avez raison, ça référait au culte de Mitra, et qui était le culte auquel croyaient beaucoup les soldats de l'Empire qui combattaient sur toutes les frontières, en particulier au nord de l'Europe, à l'est de l'Europe, contre les barbares à l'époque. Et effectivement, c'est intéressant parce que c'est pas encore le jour du Seigneur. Ça deviendra le jour du Seigneur après. Mais dans l'esprit de Constantin, et je dirais que finalement, le seul moment où ça a été un temps libre vraiment, c'est-à-dire non contraint par l'obligation d'assister à des offices, ou d'aller consommer, etc., un temps qui était laissé libre, ben ça a duré 2 siècles, je dirais entre 321 et 538, au moment du troisième concile d'Orléans, où on fait du dimanche le jour du Seigneur, en fait, hein, où l'Église revient revient en force sur cette question-là.
Et même combat, par exemple, le fait que l'on pourrait profiter de ce jour-là pour le marché, pour l'approvisionnement des centres urbains, c'est quand même cela qui se passait dans l'Antiquité.
Oui, justement, les Étrusques, par exemple, avaient une semaine, si je puis dire, la semaine, il faut aussi le préciser, le dimanche fait partie de la semaine, et la semaine, c'est une institution humaine, c'est pas comme la journée ou le mois lunaire, c'est pas lié au jour, à la nuit, etc. Donc voilà, c'est les 7 jours, ils ont aimé, il y a d'autres civilisations où c'était des semaines de 4 jours, de 8 jours, 10 jours, ou de 15 jours, la semaine, c'est une institution, c'est une invention humaine, mais celle-là, elle est référée, en fait, aux 7, ce que les Chaldéens appelaient les 7 errants, dans le 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est les planètes qui étaient visibles à l'œil nu, dont le Soleil, bien sûr, qui était considéré comme une planète qui tournait autour de la Terre, et donc, voilà, c'est à ce moment-là et le chiffre 7 avait une fonction tout à fait symbolique dans la Mésopotamie, etc., et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu cette semaine de 7 jours, en fait.
Oui. Hein. Toutes les sociétés sont concernées par un jour particulier.
Et voilà. Mmh. C'est ça aussi qui nous a frappé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société.
Sur toute la planète.
Voilà, sur toute la planète où il n'y a pas un jour qui
Bien sûr, en fonction des religions, ça peut être le vendredi.
Jour d'arrêt. Alors, au départ, c'était par exemple, en Polynésie, c'est des jours, ce qui a donné le nom de tabou. C'était des jours tapou. Qui étaient des jours néfastes. Souvent, c'est considéré comme néfaste. C'est après un événement, un cataclysme, quelque chose comme ça. Et donc, en général, mais ce qui est intéressant, la constante, c'est que le travail est prohibé ce jour-là. Le travail est prohibé, ce qui a repris le Shabbat. Mais par exemple, dans la civilisation babylonienne, 3000 ans avant Jésus-Christ, il y avait le 7e, le 14e, le 19e, le 21e et le 28e jour qui étaient des jours prohibés pour le travail. Voilà, donc c'était des jours considérés comme néfastes. Et d'ailleurs, le Shabbat, c'est ça. Hein, la Torah, s'est instituée en 100 avant Jésus-Christ, à peu près. Et la Torah, elle interdit 39 activités. Et les châtiments pouvaient être très, très, très lourds. Hein. Ouais. Et ça s'est poursuivi, ça, jusqu'au 17e, 18e siècle, en particulier dans les pays protestants, puritains, si vous voulez, où le protestantisme était religion d'État, comme en Angleterre. Voilà, donc effectivement, il y avait des interdits. Hein,
mais les brèches étaient plus importantes, je parle là de la chrétienté, en fait, de l'époque qui a suivi, bien sûr, la fameuse année 321. Les brèches étaient plus importantes du côté des catholiques que les protestants, hein, beaucoup plus tard.
Absolument.
Les protestants étaient, on ne plaisantait pas avec le dimanche, c'était vraiment un jour.
À partir du XVIIe siècle, en Angleterre, c'est quand l'anglicanisme devient une religion d'État, en fait. Hein, on est dans une religion d'État. Et James Ier, qui publie le Book of Sport en 1616, ou 17, je ne sais plus exactement la date, lui donnait l'autorisation de faire un certain nombre d'activités. Et ensuite, les puritains ont repris la main et ont dit « Mais non, il n'en est pas question, aucune activité le dimanche. » Et en 1641, c'est-à-dire 20 ans, 30 ans après, le Book of Sport a été brûlé en place publique. Et à partir de là, c'est là où on est rentré dans une période vraiment ce que des diaristes de l'époque appelaient une époque très lugubre dans la vie sociale en Angleterre. Parce que le dimanche, c'était vraiment, il ne fallait même pas sortir de chez soi.
C'est ça, on restait en famille. Ce n'était pas tout une vie conviviale à l'extérieur.
On allait aux offices et le reste du temps, on méditait. Il ne s'agissait pas d'avoir des activités de ludiques ou des choses comme ça. Alors que côté continental, et même en Allemagne, qui était pourtant un pays protestant, mais sur le Shabbat continental, puisqu'il y a eu ce débat à la fin du 19e siècle aux États-Unis entre le Shabbat continental et le Shabbat américain, le Shabbat continental était un peu plus ouvert. Les catholiques, ils ont... Bon, il y a eu des périodes très strictes, en particulier entre le 6e et le 12e, 13e siècle, des périodes très, 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 très strictes où il y avait vraiment tout était interdit, toutes les activités, même de se déplacer. C'est-à-dire, il y avait un paradoxe d'ailleurs, parce que je crois que c'est Dagobert Ier qui lui interdit les transports par voie terrestre, donc d'utiliser des chariots, etc. Donc il fallait qu'ils se rendent aux offices, mais à pied. Donc parfois c'était assez loin, quoi. Donc il y avait un peu quand un paradoxe. Ça n'a pas duré trop longtemps, mais quand même.
Alors c'est de toute façon une journée particulière. On verra qu'encore aujourd'hui, et vous le dites dans votre livre de façon assez amusante, le bricoleur, le peintre du dimanche, ça veut dire que c'est pas du vrai travail. Ça veut dire que ça doit rester un travail amateur, un travail désintéressé, ce qui va conduire à votre étude. Continuons encore un tout petit peu sur la partie historique. Déjà un journal du dimanche, hein, c'est intéressant dans la presse qui a été instauré. Je crois que c'était les premiers. C'était les Anglais.
Voilà. C'est les Anglais, oui.
Hein, les 18e siècle, fin 18e.
Oui, mais ça n'a pas duré longtemps, le premier. Il a été vite interdit. Mais par exemple, dans les années 30 aux États-Unis, le journal du dimanche, alors c'est parce que c'était un jour de repos.
Il pesait son poids aussi.
Il pesait son poids. Oui, il faisait presque 1000 pages, 600 pages, quoi. Il pesait 3 kilos, etc. Oui, oui. Effectivement, il y avait des activités qui étaient. On a essayé de promouvoir des activités ludique, du temps libre. On avait du temps libre, donc on pouvait s'informer, on pouvait... Voilà, c'était le seul jour de libre. Il faut voir aussi qu'à l'époque, le temps de travail était quand même très élevé, en particulier au 19e siècle, puisque là, le dimanche, il a été quand même consacré à la...
Tout à fait. Alors, j'allais y venir. Le 19e siècle, on peut dire une rupture, hein, parce qu'on sortait quand même de toute cette période où progressivement, même la fête commençait, les jours de bons repas, enfin, tout cela, c'était réservé au dimanche. 19e siècle, donc, évidemment, industriel. Rupture, parce que ce siècle-là, en a fait du dimanche, ou a voulu en faire, en tout cas, un jour travaillé comme les autres.
Oui.
De manière très brutale.
Ça, le capitalisme industriel, très violent à l'époque, hein, puisqu'il s'installe, quoi. Donc on fait venir les populations des campagnes pour travailler. Donc on impose une discipline du temps. Il y a un historien anglais, E.P. Thompson, qui en particulier a très bien décrit ce mouvement de la façon dont on a supprimé un peu toutes les activités un peu ludiques, etc., le dimanche. Donc effectivement, ça a été un temps, et en plus, pour les salaires, ceux qui venaient des campagnes, qui travaillaient dans ces usines, ils avaient très peu, c'était des salaires très très faibles, donc on était payé à la journée, donc il fallait travailler tous les jours, quoi.
Sinon, et puis il y avait bien sûr et plus une connotation morale, c'est-à-dire qu'on risquait, on craignait que le jour reposé soit un jour de débauche, un jour de boisson. Alors ça, on voulait éviter ça aux travailleurs.
Oui, ça c'est plus vers la fin. Enfin, ça a été continu, hein, quand même, parce que l'Église, effectivement, elle, pendant toute la période du 6e jusqu'à la Révolution, puisque la Révolution aussi, je pense peut-être qu'on pourrait en parler aussi, de des moments où on a essayé de supprimer le dimanche. Hein. Il y a eu deux moments dans l'histoire sur notre continent, si on inclut la Russie. C'est la Révolution française, avec le décadie, où on supprime le dimanche. Et la Révolution soviétique, avec en 1929, l'année Prévitska, où effectivement, on fait une journée de 5 jours. On supprime le samedi et le dimanche. Hein. Ouais. Donc comme ça, c'était radical. Ça n'a pas duré longtemps. Et après, on a fait une semaine de 6 jours. Bon, on a voulu éradiquer le dimanche. Hein. Ça, c'est par anticléricalisme, bien évidemment. Mais effectivement, dans l'histoire du 19e siècle, à partir... Donc, surtout, le mouvement venait d'Angleterre. On a réduit la durée du travail beaucoup plus tôt qu'en France. La première loi sociale en France, en 1841, qui a interdit le travail des enfants pour les enfants de moins de 8 ans, elle interdit aussi le travail dominical pour les enfants de moins de 16 ans. Bon voilà, pour les autres, ils pouvaient travailler. Vous voyez, il y avait quand même cette dimension d'un jour particulier, d'un jour...
Il a fallu attendre quoi, de 1906, hein, en tout cas en France, pour le travail de 6 jours. Hein.
Absolument, voilà. Et après un mouvement, après des luttes sociales très importantes, hein, quand même. Et en particulier, ce qui nous amène à la question, le débat actuel aujourd'hui sur le commerce, c'est les employés du commerce qui souffrait le plus du travail du dimanche. À la fin du 19e siècle, de plus en plus, les patrons d'usines avaient compris... D'abord, il y a eu un grand mouvement hygiéniste, après le rapport Villermé, qui était catastrophique sur la situation de santé sanitaire
des ouvriers,
des jeunes en particulier. Hein, l'espérance de vie, c'était pas à peine 40 ans. Donc, et quand on les envoyait à la guerre, en particulier après la guerre de 70, ça a été, on s'est aperçu que l'état sanitaire était déplorable. Et donc... il a commencé à avoir un mouvement où on donnait un peu, on attribuait le dimanche. En plus, c'était une façon, on le raconte dans le livre aussi, de lutter contre la Saint-Lundi, qui était cette tradition qui datait du Moyen-Âge. La Saint-Lundi, c'est les ouvriers qui le lundi a décidé de pas aller au travail, parce que, et en particulier en Angleterre, le dimanche c'était le temps libre contraint, mais le lundi c'était un temps libre qu'ils prenaient pour eux. Et donc, la Saint-Lundi, ça pouvait durer jusqu'au mardi, mercredi, puis après on venait travailler dur, et on travaillait aussi.
Voilà. Oui, non, c'est très intéressant, et je crois que c'est indispensable de faire tout ce retour historique pour comprendre ce qui est en train de se passer.
Voilà, et pour revenir, effectivement, au 19e siècle, donc on a vu que petit à petit, y a eu un peu ce jour qui s'est libéré, et là, c'est le contrôle du temps libre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vont faire qu'est-ce que vont faire les gens avec ce temps libre? Ça va être la débauche, ils vont boire, ils vont aller dans les bistrots, ils vont se livrer à des activités. Alors, au 16e, 17e siècle, c'est l'église, il fallait surtout pas servir à boire,
qui contrôlait, servir,
etc., qui contrôlait, enfin, qui essayait de contrôler. Et puis après, ça a été, l'État, quoi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ces populations? Donc, du coup, pour les apprentis qui venaient des campagnes, il y avait toutes ces associations, ces patrons, etc. On embrigadait un petit peu. La sortie du dimanche. Moi, j'ai été pensionnaire à un moment donné. On sortait le dimanche.
On encadrait bien.
Et on encadrait. Et c'est toute l'histoire du dimanche, je pense. Mais c'est toute l'histoire du temps de travail. C'est le contrôle. C'est le contrôle social sur les usages du temps. Qu'est-ce qu'on va faire de cet usage du temps?
Vous le revendiquez très, très largement et ça rend vraiment ce travail très intéressant. Là, comme je l'ai dit, il est original parce que vous partez du ressenti de ceux qui travaillent le dimanche, parce que vous faites aussi la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui aiment bien le temps libre, mais parce que d'autres travaillent pour eux ce jour-là. Voilà. On va y revenir. Vous faites donc une référence constante à Émile Durkheim et au travail qu'il a fait lui-même, évidemment, sur l'ouvrage qu'il a fait sur la division du travail, ces formes très pathologiques du travail qui sont opposées justement à toute forme de sociabilité, de solidarité. C'est votre point de départ et vous le revendiquez.
Oui, absolument. La paternité...
Vous êtes dans cette continuité.
Oui, voilà. Oui. Je pense que oui, c'est important la manière dont il a abordé ces questions de solidarité organique et mécanique. Je pense que c'était très pour nous, c'était un point. Ça illustrait bien. Enfin, ça formait un cadre théorique assez intéressant pour nous dans l'analyse qu'on faisait ensuite du dimanche. C'est vrai que notre point de départ à nous. Il a vraiment été les conditions de vie des gens qui travaillent le dimanche. Et c'est notre étonnement, parce que là, on avait un étonnement, on a cherché dans la littérature.
C'est que ça n'a pas été fait, il y a très peu de travaux.
Très peu de travaux. Un article en Australie d'un collègue.
Oui, France et étranger, partout.
Mais en France et à l'étranger, oui. C'est comme si on parle, et dans tout le débat qu'on a eu, c'était « ça crée de l'emploi ». Bon, ça on n'en crée pas, bon, et ensuite c'est les changements de mode de vie, c'est les consommateurs le veulent, voilà. Mais quid des travailleurs? Alors là, et je pense que c'est intéressant de faire justement ce départ entre nécessité et confort, quoi. À un moment donné, il y a une confusion entre ça, quoi. Parce que l'idée, c'était la loi de 1906, c'est de faire des dérogations pour ce qui est nécessaire à la vie sociale. Et on n'imagine pas des services d'urgence, d'hôpital fermés le dimanche, bien sûr.
Non, c'était pour améliorer les conditions de travail, la santé, comme vous l'avez dit.
Voilà, ouais. En particulier des employés du commerce, parce que c'est, encore une fois, à la fin du 19e siècle, le bonheur des dames, ou je sais pas quoi, ces grands magasins parisiens, ils dormaient sur place, parfois. Ils dormaient sur place. Et l'espérance de vie était à peine de 30, 40, 35 ans. C'était vraiment effroyable. Et donc, il y a eu des mouvements très importants, de boycott aussi, de magasins qui ouvraient le dimanche, etc.
Tous les jours de la semaine sont vides sans le creux. Mais il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. J'ai les dimanches. J'ai les dimanches. Dans la rue, il y a la foule des milliers de passants. Cette foule qui coule d'un air indifférent. Cette foule qui marche comme un enterrement. L'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. J'ai les dimanches. J'ai les dimanches. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis parti pris. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. les dimanches de printemps tout flanqués de soleil qui efface en brillant les soucis de la veille, les dimanches pleins de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux aux timides serrements et de fleurs aux branches et de fleurs aux branches. Et parmi la cohue des gens qui, sans se presser, vont à travers les rues, nous irions nous glisser, tout de main dans la main, sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain, n'ayant pour eux tout espoir que d'autres dimanches, que d'autres dimanches. Et tous les honnêtes gens que l'on dit bien pensants, et ceux qui ne sont pas, mais qui veulent qu'on le croie, ceux qui vont à l'église parce que c'est la coutume, et qui changent de chemise et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures car rien ne les en empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière, et ceux qui font l'amour par eux qui n'ont rien à faire, environ notre bonheur. Tout comme j'envie le leur d'avoir des dimanches, d'aimer les dimanches, de croire aux dimanches. Quand je hais les dimanches.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Avec le sociologue Jean-Yves Boulin, auteur des Batailles du dimanche avec Laurent Lénard. Et merci à Juliette Gréco qui vraiment est tout à fait dans votre sujet, Jean-Yves Boulin, puisque vous insistez beaucoup sur ce point après observation et multiples enquêtes auprès des intéressés. L'essentiel du temps perdu pour les loisirs, la sociabilité ou l'amour, dont parle Juliette Gréco dans Le Travail du dimanche, ne se rattrape pas. C'est bien ça qui est au cœur de votre...
Oui,
de votre
travail. Alors, d'une part, ce qu'on montre, et là c'est le travail qu'a fait mon collègue Laurent Lénard, en travaillant sur les enquêtes emploi du temps, qui sont une mine, une source d'informations tout à fait formidable, et puis qu'on a testé ensuite qualitativement auprès des habitants de Brive, en faisant une enquête, des entretiens, etc., ce qui ressort, c'est quand même que tout le monde ne travaille pas le dimanche, et même si on dit ça se répand, etc. Il y avait deux choses qu'il fallait prendre en compte, c'était est-ce qu'on travaille au domicile ou est-ce qu'on travaille à l'extérieur sur son lieu de travail. C'est pas du tout la même chose d'ouvrir sa boîte mail un dimanche soir pour se remettre un petit peu dans ce jour qui arrive, qui est le début de la semaine, puisque le lundi est le début de la semaine, au sens international des nomenclatures internationales. Mais il y a ça, et est-ce qu'on travaille plus de 2 heures ou pas? Alors ceux qui travaillent à l'extérieur travaillent plus de 2 heures, évidemment. Alors voilà. Donc ça, c'est une chose qui est importante, et on a mesuré vraiment la perte en termes de soit de loisirs, de temps de loisirs, bien évidemment. C'est un peu tautologique. Hein. Si on travaille, y compris la semaine, si on travaille la semaine, on n'a pas de loisirs. Hein. Donc voilà. Sauf que le dimanche, c'est le jour du loisir, c'est le jour c'est le jour de synchronisation de la famille, c'est le jour de la synchronisation sociale, parce que la majorité de la population est censée ne pas travailler, c'est le jour où il n'y a pas d'école, etc. Donc voilà. Donc on a mesuré ça de façon assez précise, en distinguant la sociabilité conjugale, la sociabilité d'un parent avec les enfants, mère-enfant, père-enfant, etc., avec les amis. Et donc on voit bien qu'il y a une perte. Seulement, on nous objectera, et on nous a objecté, bien sûr, dans un premier article qu'on avait fait pour Économie et Statistique, qu'il y a un repos compensateur, normalement. Alors, bon, d'accord, non, regardez un peu l'effet de ce repos compensateur. Et de fait, le repos compensateur, il permet de récupérer certaines sociabilités, par exemple la sociabilité mère-enfant, parce que par exemple, elle va le prendre le mercredi quand il n'y a pas d'école. Donc voilà, donc ça va se compenser. Par contre, les autres sociabilités, elles sont perdues. Et elles sont perdues pourquoi? Parce que l'autre jour de la semaine, les autres travaillent. donc le jour, c'est pas un jour de synchronisation sociale. Et donc voilà, donc on mesure ça de façon très 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 précise. Et on a regardé aussi, je pense que c'était aussi intéressant de regarder qui travaille le dimanche. Et quelles sont les conditions? Et ce qu'on remarque en particulier, ce qu'on a remarqué, c'est que ceux qui travaillent le dimanche et qui sont dans un horaire atypique, sur l'échelle de la semaine, travaillent aussi en horaire atypique le reste de la semaine. Majoritairement. C'est-à-dire, on a remarqué que quand on prend les semaines fractionnées, ben, la moitié des semaines fractionnées qui sont travaillées sont des, il y a des dimanches travaillés dedans. Il y a la moitié qui comporte un dimanche travaillé. Pareil pour le travail de nuit. Et puis en plus, il y a le week-end. Le dimanche, il est accolé au samedi. Le principe du week-end, hein, la semaine anglaise qui s'est développée au début du XXe siècle. Eh bien, la majorité, 80%, 80 à 90% des gens qui travaillent le dimanche travaillent aussi le samedi. Donc on voit bien que ces deux jours un peu de synchronisation sociale et amicale, bah, pour ceux qui travaillent ce jour-là, bah, c'est perdu.
À quoi on peut ajouter que ce ne sont pas, en général, les personnes qui touchent les meilleurs salaires. C'est
plus,
un autre, bah c'est oui, un autre point évident. Parce que c'est lié au commerce. Alors, revenons un tout petit peu en arrière, nous avons fait tout ce contrepoint historique en première partie de notre entretien. Mais c'est un phénomène récent, ça aussi. C'est une autre rupture. On avait parlé de celle du 19e siècle qui voulait faire travailler tous les jours de la semaine. Depuis, quoi, trois décennies, on vous le situe, quoi, au début des années 80, même 90, ce processus de dérégulation du repos dominical qui vous semble à l'œuvre et qui vous semble aller vers du toujours plus.
Oui.
Vous le situez à peu près à cette période-là?
Oui, en fait, à la fin du 19e, début du 20e, tous les commerces étaient ouverts le dimanche, et pour une raison simple, c'était le seul jour où les gens avaient un petit peu de temps libre. Le reste du temps, ils travaillaient 10-12 heures par jour, donc faire des courses, etc. D'ailleurs, le petit commerce était très opposé.
Bien sûr.
Les commerçants étaient très opposés à l'idée du repos dominical.
De cesser le démarche.
Ce qui est un peu la situation inverse aujourd'hui, parce que là, c'est les grands commerces, les grandes surfaces, etc., qui veulent ouvrir, mais le petit commerce, ils peuvent pas faire face, donc ils sont plutôt contre. Et effectivement, on peut dire que la loi de 1906, donc il y avait un certain nombre de dérogations, beaucoup de dérogations, mais qui étaient, tout ce qui renvoie à ce qu'on appelle le fonctionnement de la vie sociale, c'est-à-dire la sécurité, la santé, la police, l'armée, la défense, l'énergie, les transports. Sachant quand même que les transports, quand vous regardez les tables, les time schedules des transports dans tous les pays, vous voyez qu'il y a quand même la semaine, et puis le samedi et le dimanche. Parce que le dimanche, il y a moins de transport, la fréquence est moins intense, etc. Mais on peut dire que de 1906, et alors les commerces, c'était le commerce en France en tous les cas, et c'est la grande différence avec les autres pays qui ont dérégulé aussi à peu près à la même période, et avant nous même, c'est que en France, le commerce alimentaire pouvait ouvrir le dimanche matin. Et en particulier les marchés, etc. Ce qui n'existe pas en Allemagne, qui n'existe pas en Autriche, qui n'existe pas dans les autres pays.
C'est très frappant, ça, d'ailleurs.
C'est intéressant, parce que toutes les comparaisons en termes d'emploi, etc., ont complètement ignoré cette question-là. C'est-à-dire, quand ils ont dérégulé aux Pays-Bas, ça a créé de l'emploi. Certes, sauf que les magasins, avant, fermés à 17-18 heures, c'était les horaires des commerces qui étaient régulés. C'était pas seulement le repos dominical des salariés, mais c'était aussi les horaires des commerces qui étaient encadrés, comme en Allemagne. En Allemagne, jusqu'en 2003, les commerces fermés à 18 heures. Alors après, ils ont introduit une nocturne, etc. Ils étaient fermés 3 samedis après-midi sur 4. 3 samedis après-midi sur 4. Et ils étaient fermés le dimanche. Donc on imagine bien que quand on a commencé à ouvrir dans les années 90 et ensuite en 2003 pour le dimanche, mais le dimanche très limité en Allemagne, hein, pas plus de 4 dimanches, sauf à Berlin où c'est 8. Donc voilà. Et donc, on peut dire que entre la loi de 1906 et 1980, on va dire, au moment où on commence à parler d'aménagement, on parlait avant de réduction du temps de travail, donc il y a eu tout le mouvement de réduction, mais aménagement du temps de travail, ARTT, aménagement et réduction du temps de travail, en général, les deux termes, on a essayé de les associer, puis après ils ont été dissociés, c'est-à-dire on a fait de la flexibilité sans réduction du temps de travail, à part en France, parce qu'il y a eu la loi, les deux lois Aubry à la fin des années 98,
mais
jusqu'au début des années 80, ça n'a pas bougé. Voilà, il y avait on peut dire que le repos dominical était plus ou moins était quand même respecté. Et à partir de l'ordonnance de 82 par exemple, qui a institué les 39 heures, la cinquième semaine de congés payés, etc., a aussi institué par exemple des équipes de fin de semaine dans l'industrie, c'est-à-dire des équipes spécifiques.
Oui, ça a commencé de manière assez subreptice.
Ça a commencé
même,
dans l'industrie, on a libéré encore un peu plus dans l'industrie, où ça n'a jamais posé de problème. C'est ça aussi qui est assez frappant de voir, c'est que dans l'industrie, le travail de nuit, il a tout le temps existé dans les industries process, dans les industries chimiques, dans les industries fourneaux, etc. Par contre, et ça n'a jamais posé de...
Mais ce qui vous dérange au fond, Jean-Yves Boulin, c'est que ça, là, comme dans les périodes précédentes où on y a assisté, ça part du commerce. Et les arguments sont ceux-là, c'est-à-dire Alors, je vous les cite les arguments de ceux qui sont pour, parce qu'évidemment, c'est un débat très vif, hein, entre les défenseurs et les opposants. Les arguments des défenseurs, il y a évidemment la liberté. Liberté de commercer, si j'en ai envie. Liberté de travailler ou de faire travailler les autres. C'est également le cas. C'est plutôt celle-là pour vous. Ce que vous appelez, vous, le fun shopping, puisque c'est le terme, mais c'est s'amuser un peu au fond à aller faire des courses pour le plaisir ou passer par Internet ou du lèche-vitrine si c'est ouvert. Création d'emplois, vous en avez parlé. Et autre argument, peut-être un peu plus récent, mais il faut bien en tenir compte si on est réaliste, ce que vous diront ceux qui défendent le travail du dimanche, compétition internationale. Comment voulez-vous qu'une grande ville comme Paris, alors que Londres, Berlin, je ne sais plus lesquelles, tout est ouvert le dimanche, comment voulez-vous qu'une ville comme Paris reste fermée, descende les Champs-Élysées avec des boutiques fermées, c'est impensable. Et là, vous répondez, d'accord, mais c'est partout cette même consommation, cette même conception consumériste du temps libre. C'est ça qui vous dérange ?
Oui, je pense que le temps libre, c'est aussi un temps... c'est le dimanche, en tous les cas, c'était le moment, encore une fois, des loisirs en famille, des loisirs avec des amis, c'est le moment des activités ludiques. Le sport, la consommation, c'est comme si on demandait aux individus, aux citoyens, de relancer l'économie à travers leur consommation.
C'est une injonction.
C'est une injonction. Il y a une injonction à dire, voilà, et on est dans l'hyperconsommation, c'est-à-dire c'est de plus en bon, ça a commencé par exemple aux États-Unis où c'est resté très très longtemps la régulation très stricte. C'est dans les années 20 que ça bascule, c'est avec le fordisme. C'est à partir du moment où Ford décrète que la journée de travail sera payée 5 dollars et puis à tout le monde, c'est-à-dire il relève les salaires de façon très importante. Mais c'est aussi pour que les gens consomment. Donc c'est production de masse, consommation de masse, et on rentre dans ce cycle-là.
C'est une régression, j'ai rien contre la
consommation. Je pense qu'on est obligé de consommer de toute façon, d'accord, oui. Mais est-ce qu'on peut en faire l'alpha et l'oméga de nos sociétés ? C'est un peu cette question-là, et c'est un peu vers ça qu'on va quand même. Et derrière, si vous voulez, c'est pas seulement l'acte de consommer, mais c'est tout ce que ça entraîne derrière. Il y a un effet domino. Et vous avez parlé effectivement de cette espèce de compétition internationale. Franchement, nous on a regardé un petit peu les tours opérateurs et disent attendez, si c'est fermé, les grèves faillettes le dimanche, eh ben on y va le lundi ou on y va le samedi. Mais bon, on organise les choses différemment. Et alors l'idée qu'on va se précipiter à Londres, non, c'est pas vrai, parce que d'abord, ils sont pas dans Schengen, c'est compliqué, etc. Donc soit ils font un tour, les touristes chinois, alors il fallait qui allait vider les poches des touristes chinois, quoi. Berlin, Paris, et là, il y a un effet domino, il y a effectivement l'effet de compétition, c'est-à-dire que l'Angleterre, qui avait dérégulé, la Grande-Bretagne avait dérégulé dès 94, mais assez strictement, on oublie de le dire, Harrods, l'équivalent du printemps ou des Galeries Lafayette, ne pouvait ouvrir que 6 heures le dimanche, entre 10h et 18h. Donc c'était très régulé. Nous maintenant, ils peuvent ouvrir de toute la journée jusqu'à minuit.
Rappelle quand même deux lois, la loi Maillet 2009, avec les périmètres d'usage, de consommation, les puces notamment.
Périmètres urbains de consommation exceptionnelle.
D'accord, et ça c'était déjà un premier
revirement. Le terme exceptionnel revient toujours. C'est-à-dire, dans la régulation du dimanche, à chaque fois qu'il y a eu le rapport Bailly, à chaque fois qu'il y a une loi, le dimanche est un jour particulier, est un jour exceptionnel, mais on va faire des exceptions à cette exception.
C'est-à-dire qu'à force d'être exceptionnel,
il devient banal.
Loi Macron 2015, qui a amplifié le phénomène avec des garde-fous, bien sûr. Le nombre de dimanches ouverts sur autorisation du maire, d'abord. On est passé de 5 à 12 dimanches. Les commerces situés dans les zones touristiques internationales, on y revient, à cause de la fameuse compétition. Et quand même, cette loi qui a renforcé, qui a obligé les entreprises, on le sait, on s'en souvient, ça a été assez discuté, de plus de 11 salariés à négocier un accord pour définir les conditions avec des compensations salariales et le reste. Il n'empêche, vous continuez de dénoncer, malgré tout cela, la régression sociale historique pour vous et le fait que ça ne résout pas les inégalités.
Ah non, pas du tout. Alors d'abord, parce qu'effectivement, il y a obligation d'accord. Alors on peut dire que c'est l'aspect positif de la loi Macron par rapport à celle de la loi Maillet, qui elle, alors là c'était des inégalités entre ceux qui travaillaient le dimanche dans les fameux 5 dimanches du maire, qui étaient payés double, il fallait le volontariat, etc. Et ceux qui étaient dans les puces ou dans les zones touristiques, où là, bah, oui, il y avait une demande de négociation, d'accord, mais il n'y avait pas de seuil qui était fixé. C'est pas, voilà. Mais il ne faut pas oublier que, à part les 12 dimanches du maire, alors déjà, ce gouvernement, il a quand même fait une extension des dimanches du maire. On est passé de 5 à 12, ce qu'il n'avait pas osé Maillet. Hein. On était passé de 3 à 5 avec la loi quinquennale en 93. Maillet, il voulait passer à 10, ils ne sont pas passés parce qu'il y avait une très forte résistance. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ça clive partout, cette affaire. Ça clive entre les gens qui veulent ou pas consommer le dimanche, ça clive les partis politiques, parce que quand la loi Maillet, eh bien, il y avait une partie importante de députés, une cinquantaine de députés de droite qui étaient contre, et il y avait une alliance entre les députés de droite, entre les députés de gauche, avec les syndicats, donc on retrouvait une alliance. Et de même, avec Macron, la loi Macron, on avait en 2015, il y a eu les frondeurs qui étaient contre, etc. D'ailleurs, le gouvernement s'est retrouvé complètement isolé hein, dans cette affaire-là, d'où les ordonnances d'ailleurs. Hein. On a fait ça par ordonnance. Hein.
Oui. Alors pour revenir à vos salariés, ceux qui sont donc très directement concernés, dans vos enquêtes, vous découvrez quand même, vous pointez, que le volontariat est rarement une question de choix. Mmh. Alors bien entendu, quand on est payé double, c'est motivant pour un vendeur qui serait au SMIC.
Vous confirmez, quand les salaires sont très bas.
Quand les salaires sont bas, vous confirmez qu'il y a une perte de qualité de vie, ça ils le disent tous, celle dédiée à la famille et aux amis, vous l'avez déjà dit. Et puis les travailleurs du dimanche, nous l'avons également mentionné, mais ça me paraît le point peut-être le plus important, ne rattrape pas ce temps de sociabilité qu'ils perdent en n'étant pas avec les autres ce jour-là. On passe peut-être un peu plus rapidement, parce que je voudrais venir à votre analyse et votre conclusion, et à l'actualité également dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sur cette manière de mieux consommer le temps libre, le rapport à la réduction du temps de travail, hein, créer de l'emploi ou pas. Vous pointez quand même, Jean-Yves Boulin, que beaucoup d'États européens, la Suède, l'Italie, qui a eu des bureaux du temps libre très tôt, je crois, et évidemment, les bureaux du temps, c'est ça. L'Allemagne, hein, avec, ça c'est l'actualité, le syndicat IG Metall qui réclame maintenant une semaine de 28 heures et les pays nordiques dans leur ensemble, d'ailleurs j'ai cité la Suède, mais qui mettent la durée du travail à l'échelle d'une vie. Nous n'y sommes pas encore et vous aimeriez bien voir pointer cette direction-là en France aussi.
Oui, vous savez, quand on est chercheur comme moi, on travaille sur des matières. Alors ça vient probablement aussi du fait que j'ai commencé avec Jacques Delors, qui était plutôt quelqu'un qui était à la fois, qui avait l'esprit recherche, l'esprit théorique et l'esprit pratique. Lui, il voulait voir les choses se transformer. Moi, j'ai toujours imaginé mon travail de recherche déboucher sur quelque chose. J'aurais travaillé sur la réduction du temps de travail pour arriver aux 35 heures, etc. Sur les politiques temporelles, développer ces fameux bureaux du temps à travers des réseaux européens, c'est une de mes fiertés, qui est actuellement une trentaine de collectivités en France qui sont dotées de bureaux des temps. Alors, je sais pas tous.
Oui, des villes avec lesquelles vous avez travaillé, enfin, ce qui
absolument,
vous en
absolument,
fait
réfléchir voilà, à ces questions. Brive, justement, c'est une ville qui m'a demandé de venir faire une enquête sur la question du dimanche parce que cette question était ressortie. Les gens dans les comités, les associations de quartier, etc., disaient le dimanche à Brive, il n'y a rien à faire, etc. Donc, voilà, c'est des questions, mais c'est ça, les bureaux des temps. C'est faire remonter des choses et avoir de la démocratie participative, co-construire des choses. Donc voilà, donc oui, c'est vraiment l'orientation. Et alors sur la réduction du temps de travail, oui, moi je plaide effectivement pour que la sortie des 35 heures, c'est par le haut, quoi. On ne va pas revenir, on ne va pas les remettre en cause. Simplement, maintenant il faut passer à l'échelle de la vie. Et c'est le grand intérêt de l'accord de IG Metall, enfin qui a été signé entre IG Metall et Gesamtmetall, le patronat allemand.
Tout récemment, en Allemagne, vous a pas surpris?
Non, parce qu'il y avait déjà en Allemagne, il y a déjà des expérimentations de ce type-là, des horaires à la carte, de ce qu'ils appellent le temps de travail de confiance, où il y a le temps de travail n'est plus, on n'oblige plus à venir les gens à venir travailler 8 heures par jour, par exemple. Non, ils ont un temps de travail à faire sur l'année et ils ont des comptes épargne-temps qui sont même des banques de temps. C'est-à-dire, on peut être débiteur, c'est-à-dire on n'a pas pris du temps. Et moi, mon idée, c'est sur l'ensemble de la vie, on a des période, on a besoin de temps. Par exemple, la période de la parentalité, les deux parents auraient besoin de temps, de passer à temps partiel. C'est ça l'accord IG Metall. C'est vers la société du care aussi, la société du soin. C'est-à-dire du soin aux autres, aux enfants, aux personnes dépendantes, etc. Et donc, on pourra passer désormais à 28 heures pendant deux années pour faire autre chose, etc.
Alors, ce qui vous peut-être vous intéresse, donc c'est cette actualité assez récente, suite au rapport remis par Orsena, l'académicien Éric Orsena, l'ouverture des bibliothèques, c'est-à-dire mieux organiser le temps, mieux en profiter. On n'est plus dans le renouvellement des forces de travail des marxistes, on n'est même plus dans le repos quasiment obligatoire, on est dans l'organisation du temps. Ça vous paraît une bonne direction ?
Oui, oui, oui.
Ouvrir les bibliothèques, c'est un exemple parmi beaucoup
d'abord,
d'autres.
D'abord, c'est un contre-feu face à l'ouverture des commerces, c'est-à-dire il y a peut-être une alternative. Il y a peut-être une alternative. Et dans les bibliothèques, si vous allez voir les bibliothèques Marguerite Duras ou celles qui sont ouvertes à Paris, il y en a 4 ou 5 qui sont ouvertes, François Truffaut, Marguerite Yourcenar, etc.
Elles sont pleines.
Elles sont pleines le dimanche. C'est pas les mêmes publics. C'est donc il y a une acculturation à un phénomène qui est une activité de la lecture qui est constamment en baisse. Donc là, d'un seul coup, ça reprend. C'est pas le même métier. Donc les gens, les bibliothécaires sont obligés de réfléchir à d'autres façons de faire. Il faut créer de l'événementiel. Il faut qu'il y ait des espaces différenciés, etc. dans la bibliothèque. C'est des espaces de lien social, de cohésion sociale. Avoir un temps commun le dimanche, pour nous, c'est cette idée d'un temps commun, d'un temps de synchronisation qui permet de faire société. Parce que s'il n'y a pas ce moment, et c'est Jérôme Deschamps qui avait cette expression, une expression que je trouve très belle, il dit pour que la vie soit belle, il faut qu'elle soit ponctuée. Effectivement, c'est ça, cette idée. Et plus que la durée du travail, c'est la question du rythme. Et la question du rythme est très importante sur la semaine, avoir un jour où on baisse un peu, où le boulevard Haussmann n'est pas envahi de bagnoles, etc. Où la ville elle-même se repose, le bitume est moins chaud. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, quoi. D'un seul coup, la ville là, prend une autre atmosphère, elle change. Et aussi, sur l'ensemble de l'année, bah, y a les congés, il y a des choses comme ça. Et sur la vie, parce qu'il y a des moments où on peut travailler plus intensément, des moments où on peut travailler moins intensément. Et il y a des moments où c'est même nécessaire, où c'est indispensable.
Du bon usage du dimanche, protéger la vie sociale, dont
absolument,
vous parlez,
absolument.
La vie familiale, dont vous avez parlé aussi.
Oui, parce que c'est important de plus en plus, surtout en France, où on a beaucoup de couples biactifs qui travaillent à plein temps. C'est le choix qui a été fait en France, c'est pas le choix qui a été fait en Allemagne ou aux Pays-Bas. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, me semble-t-il, de pouvoir avoir ce temps de synchronisation, des moments où on peut se retrouver vraiment.
Vous êtes un peu inquiet dans ce livre, vous le restez ?
Oui. Oui, parce que la bataille est un peu perdue, hein, pour l'instant. Je sais pas, il y a peut-être un soubresaut, mais pour l'instant, oui, on est un peu pessimiste. Bien sûr que qu'il y a la rationalité qui n'est pas une, c'est l'irrationalité économique prend le dessus. C'est l'irrationalité économique parce que ouvrir tous le dimanche, ils vont tous y perdre.
Voilà. Et nous avec.
Et nous avec. Collectivement, on y perd. Eux, ils vont y perdre. Et déjà, au printemps, etc., ils se rendent compte que le chiffre d'affaires, bah, c'est pas génial parce qu'il y a des reports sur la semaine, des reports de la semaine sur le dimanche. Et donc, voilà.
Merci Jean-Yves Boulin. Avec Laurent Lénard, les batailles du dimanche, je l'espère, pas tout à fait perdues. Paru aux presses universitaires de France, on en retrouvera les références et d'autres textes aussi que vous avez écrits au long d'une carrière, je l'ai dit, consacrée complètement à ces politiques temporelles, à ces temps de nos vies. Merci encore et merci à notre petite équipe de ce soir, Dany Journaud pour la réalisation avec Philippe Mercher, Laurence Genepin bien sûr pour la préparation, pour la documentation. Vous pouvez nous écrire sur notre site à franceculture.com ou sur Twitter, réagir à tout ce que nous disons là. Twitter, on y répond, @DomRousset. Très bonne soirée à tous, dans très peu de temps. C'est Création On Air, juste après nous, et nous nous retrouvons mercredi prochain.